מי שנכנס לא מבין בשמחו. Chers amis, Erev Tov, Bechem Hashem, Nasseh Benatsiach, nous sommes le jeudi soir, le 11 du mois de février, et déjà le Lamed, Rosh Chodesh, Adar Mishenichnas, Adar Marbim, Besimcha. On parlera de la paracha de la semaine, d'une mitzvah qui commence, cette paracha, Ve'elem Mishpatim. Et puis on parle dans juste un instant, Ve'elem Mishpatim, Asher Tassim, Lifnehem, devant eux et non pas devant les non-juifs, car les non-juifs ont leur loi et nous, nous avons les nôtres. Alors le shiur de ce soir est pour le dimanche de Hadar, Iviluz, pour l'askara de son papa, Moshe ben Simcha, Zichron Ibracha, et avec lui bien entendu, Kol Mete Israël, Lechaim Tovim Mushalom, Fouachlema pour tous les malades d'Israël sans exception, Bezrat Hashem Idbarach, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, et aussi Fouachlema pour tous les malades, Marie Zrivka Bat Myriam, guérison, si Dieu veut, totale et définitive. Sarah Caroline, Bat Marie Rivkar, Lama Meira Bezrat Hashem. Oufren Deborah Bat Anaël, Deborah Bat Isabel Beila, Bezrat Hashem, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Shimon Ben Simcha Tamo Bat Hanach, Lama Meira. Yosef Ben Taïta, Liam Ben Sarah Laura, Efrat Bat Sarah Laura, Teila Bat Sarah Laura. Sarah Laura Bat Simcha Alin, Bezrat Hashem Yosef Ben Batia, Kol Chole Israël Bechol Atar Veatar. Une grande réussite aussi pour tous ceux qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Amen. Bien entendu, l'Inu Nishmat, l'Elef Alfa Avdalim, Georges Eliaou Ben Simcha Alis, Mishpachat Amar. On pensera à la Refoua Shlema de René, Bezrat Hashem, Ben Moussa Yakar. Juste un instant. René Mahlouf Ben Sarah Ben Moussa, Julo, on va noter son nom, Julo, Ben Yasmin, Yadon. Achlama Meira Tzadik, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, et avec vous tous les malades d'Israël sans exception, Sarah Tarabat Efrat Mira, Moratimia Gdosha Vetaura, Chainon Ben Jessica, Feret Aviva, Vechen. כל אחד ואחד, חיה, רוחמה, אסתר, בת רבקה, החלמה מהירה, סופית ודפיניטיב, ינאי בן אסתר, בעזרת השם, מורתי מהקדושה והתאורה, כל חולי ישראל, כל הרוסי פרוטוס, et de la joie pour ce roche חודש magnifique que nous traversons à partir de ce soir. N'oubliez pas, יעלה ויבוא, בעזרת השם, יתברך. Alors, il y a une question énorme dans cette paracha qui nous parle de plusieurs degrés. Vela Mishpatim, voici les lois, Asher Tassim Lifnehem, que tu mettras devant eux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, devant eux, qui eux, les Juifs, Velo Lifne Umot Haolam, car les Juifs doivent avoir des lois qui sont différentes des nations du monde. Les non-Juifs ont des lois législatives qui correspondent au Pshat de ce monde, c'est-à-dire au premier degré de ce monde, que eux-mêmes vont mettre en place dans chaque pays. Par contre, nous, les Juifs, eh bien, il faut savoir que nous avons des lois qui sont régies par le divin, ce qui fait que nos lois, à nous, ont quelque chose de spirituel. Et pourquoi spirituel? Je m'explique clairement. Car quand la justice est faite sur terre, Baruch Hashem, et ça a des conséquences pour le monde futur. Ce qui fait que si, Chas v'Shalom, nous ne faisons pas justice devant des Dayanim, au Bet Din, et non pas devant un palais de justice, Chas v'Shalom, quand on est les deux juifs, quand on parle d'un conflit entre deux juifs, eh bien, ce qui va se passer, c'est que si, chas v'shalom, on a le malheur de prendre des avocats pour se prendre la tête pour un conflit qui pourrait très bien se régler et qu'on ne va pas selon les lois juives, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on devra revenir en réincarnation et encore une fois dans le ventre de la maman 9 mois et revenir. Et hormis le fait que c'est un interdit extrêmement grave, eh bien, on n'aura pas fait la justice divine, ce qui fait qu'on peut tout à fait se retrouver face à un juge qui va écouter les plaignants, patati patata, mais il ne va pas suivre le système de la halakha. Il ne va pas voir que la Torah nous dit qu'il faut minimum deux témoins. Est-ce que tu as un shtar? Est-ce que... Et puis, il y a plein de conditions autour de tout cela. Est-ce que simplement il a donné sa parole? Est-ce qu'il a signé un contrat? Tout cela rentre en ligne de compte dans le judaïsme. Et s'ils ne vont pas selon cette loi-là, par exemple, un exemple très connu, si on a un seul témoin qui vient témoigner que lui, il l'a vu assassiné, dans n'importe quel tribunal dans le monde entier, cette personne est coupable. Dans le judaïsme, cette personne n'est pas coupable. Juste que vous compreniez un petit peu comment ça se passe. Pourquoi ? Parce que la Torah nous dit qu'un seul témoin n'a pas forcément une vision émette. Et on ne peut pas condamner une personne sur un doute. Ça n'existe pas. Ce qui fait que la Torah te dit, est-ce qu'il y a eu deux témoins, comme c'est marqué dans la Seret Makot, comment ils étaient habillés, à quelle heure ça s'est passé exactement, des détails, on vérifie s'ils portaient des lunettes, pas des lunettes, on rentre dans des trucs de malade, ça ne veut pas dire que les avocats ne le font pas, mais un seul témoin, ben, ça paraît logique, on parle à une personne qui dit, écoutez, moi j'étais présent, je l'ai vu de mes propres yeux planter ce monsieur, d'accord ? Tu viens devant un Bedin, devant le Sanhedrin, tu dis, monsieur, vous étiez seul, il y a un autre témoin avec lui, non, monsieur, vous êtes libre, au revoir. Ça ne marche pas dans la Torah. Et si tu condamnes cette personne alors qu'il y avait un seul témoin, hein, c'est pas valable. La Torah va te condamner, Chas v'shalom, à payer pour lui. La chente, ce qu'on appelle Edim Zomemim, c'est toutes des lois dans tous les domaines. Et la Torah nous dit, Elé Amishpatim, fais attention, quand tu vas, tu as un conflit avec une personne, il faut que ce soit la Torah qui te juge, pas la loi des Goulim. L'ifnehem, velo l'ifne umot haolam, et surtout pas devant les nations du monde. Et comme il y a toujours des gens qui croient que la Torah c'est une religion, avec le petit curé avec son petit blanc ici, ou le représentant d'une autre religion, il dit, mais je comprends pas, la Torah, la religion c'est une chose, la justice c'est autre chose. Vient marquer V.L.E. Rashi Akadosh nous dit, tout comme la Torah t'a été donnée par Dieu, les lois qui régissent nos vies privées, la politique juive, hein, je vois pas le rapport entre la religion et la politique, ben, c'est que tu n'étudies pas la Torah. Ve'ele, la Torah vient nous dire que tout le système dans lequel tu vis, le système juridique, le système professionnel, le système de tout ce que tu veux qui gère un pays, a autant de valeur, dit Rashi, que la Torah. Parce que la Torah, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? Baruch Hashem. Donc arrêtons de nous comporter comme des assimilés qui n'étudions pas la Torah, parce que celui qui étudie la Torah, il comprendra très bien que la Torah, elle ne s'adresse pas qu'à la petite synagogue ou à la yeshiva. La Torah se trouve dans le travail, dans le meurtre, dans le vol, dans la société. La Torah gère absolument tout cela. Ve'ele, Rashi dit, kol makom shenamar ele, pasal et harishonim. Ve'ele, le fait qu'il y ait marqué ve'ele, mosif al harishonim. Ça veut dire que tout comme maintenant tu as reçu des lois morales, des lois spirituelles, des lois fortes, bah Torah, misinai elu, ve'elu misinai. Les deux viennent de Dieu. Qui c'est qui a écrit les Mishpatim ? C'est Dieu. Qui va nous donner les lois de combien tu dois rembourser si tu as volé, combien ceci et combien cela ? C'est la Torah elle-même. Attention d'aller voir Chas v'Shalom, les Baté Mishpat, et celui qui va, selon la justice, bien demander à vos rabbanim que vous fréquentez. Comme l'avait dit le Rav Ovadia Yosef, il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui prend un avocat et qui va devant les tribunaux laïcs et une personne qui prend le Sefer Torah, qui crache dessus et qui le jette par terre. Il n'y a aucune différence entre lui et l'autre. Vous allez me poser la question, bien sûr, mais alors comment on fait dans ce cas-là ? Eh bien, on va au Bedin, et si l'un des deux ne veut pas y aller, le Dayan donne une lettre qui lui permet de prendre un avocat et d'aller selon les lois des non-juifs. Et ainsi donc, peu importe maintenant qui avait tort ou raison, c'est celui qui n'a pas voulu venir devant le Bedin qui prendra toute la responsabilité, tous les péchés et toute la justice, c'est lui qui la paiera. Dans ce monde et après la mort, selon le Harizal. Car Omrim Chazal fait très attention à cela. On ne se rend pas compte combien notre Torah est précieuse et que, je le répète une dernière fois, en tout cas pour ce shiur, d'aille de croire que le monde religieux ne doit pas être dans la politique, d'aille, quitter un peu la galoute, quitter un petit peu le côté sacerdotal ou je ne sais pas quoi, le côté un petit peu religieux, vous vous trompez. Dans la Torah, nous avons le roi, il est religieux, David Ameler, Shlomo Ameler, Hizkiyahu Ameler, Tzidkiyahu Ameler, Asa, tous les rois d'Israël devaient. Le Mashiach, quand il va venir, Marzira Atara Yoshna, il remet les lois. Il n'y aura plus ici de juges et de Bet Mishpat HaShalom, Bet Mishpat HaMechozi. Qui vivra verra. Il n'y aura plus tout ça. T'as un problème, tu vas devant le Bedin. Et là-bas, il y a des Dayanim. Ça va? Et à cette époque-là, quand il y aura les Dayanim, Bezrat Hashem et le Mashiach, il n'y aura plus des gens qui vont critiquer les rabbins. Tout le monde va être au garde à vous. Tout le monde va être au garde à vous. Il n'y aura plus toutes ces langues mauvaises qui parlent à celui-là et les rabbins, les rabbins, les rabbins, les rabbins. Il n'y aura plus tout ça. Bezrat Hashem. Aïe, 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 aïe. Velama nexmecha parashat dinim le parashat misbeach, le marche et asim sanhedrin, ele amigdash. Donc Rashi nous dit, tout comme on avait le sanhedrin, il y avait aussi les korbanot, on voit bien que le monde de la Torah, ce n'est pas un monde religieux, de je fais Shabbat, je mange kasher, je fais la Neda, Ezeu, je suis dans mon petit monde avec mon petit loulav, dans ma soukha, ma mashlo. La Torah, c'est ça, mais c'est aussi le Sinaï et Ve'ele Amishpatim. Alors ensemble, Bezrat Hashem, on va voir combien la Torah, elle est belle, combien elle est juste, combien elle est extraordinaire. Shtabar Shemola, Be'emet Kama, Torah Shelanu Yafa. Imaginez qu'une personne... et volé l'autre. Il a arnaqué et il l'a volé. Il lui a volé 50 000 shekels. On l'attrape et on lui dit rembourse. Et le mec il dit ouais, je veux bien, mais j'ai dépensé tout l'oseille. Eh bien, rembourse quand même. Il dit je peux pas rembourser. On lui dit très bien. La police va l'emmener donc dans les tribunaux parce que même si rembourse c'est pareil, et le juge va lui dire « Monsieur, vous êtes un récidiviste. Vous allez prendre 6 mois de prison. » Le judio, « Ben, quel est le nom d'idiot ? 6 mois de prison. Bon, ok. » Mais celui qui a été volé, il a été remboursé ? Non. Seulement celui qui l'a volé a fait de la prison. Moi, je vous pose une question. Est-ce que vous préférez qu'un voleur qui vous ait pris, chas v'shalom, de l'argent, une très grosse somme d'argent, aille en prison ? Ou alors qui regrette, qui vous rembourse et vous dédommage, aussi sur le nafshi et ainsi de suite, comme la Torah le prétend par la suite. Tu as volé, tu rends pishtaim. Vous connaissez l'histoire. S'il a volé un bœuf, s'il a volé un agneau, la Torah va prendre en compte si, quand il a volé l'agneau, donc il a porté, donc il faut descendre, pas plus que double, mais s'il a volé un bœuf, il est monté dessus, donc automatiquement il rembourse pi chamesh. Donc voilà, il y a des lois qui sont très intéressantes dans le judaïsme à étudier profondément, dont les babot, baba batra, baba metzia, baba kama, qui nous ouvre parfaitement l'esprit par rapport à la justice, comment Dieu voit les choses, et tout est mesuré. Donc dans le judaïsme, qui t'ekne eved ivri, quand tu achèteras un serviteur, un esclave, on dit comme ça, mais ce n'est pas le mot, un serviteur. Pourquoi ce n'est pas le mot un esclave? Parce qu'un esclave, ça a une connotation péjorative. Ça veut dire qu'on lui donne des coups, on le fait dormir dans une cave, machin. Pas du tout. Dans la Torah, c'est le contraire. Hein, tel point que la Gemara nous dit, celui qui a acheté un esclave, c'est acheté un maître. Ça veut dire que le maître qui possède un esclave est plus esclave de son esclave que l'esclave ne le sert. Pourquoi ? Parce que la Torah nous dit que tu dois lui donner ce que tu as de meilleur. Si tu as un seul oreiller, c'est pour lui. Si tu as un seul morceau de viande, d'abord c'est pour lui. Toi en deuxième. Donc ce n'est pas vraiment le mot esclave, c'est plutôt le mot serviteur. Et dans quel cas on avait ce genre de service ? Eh bien tout simplement, prenons le cas de la Torah. On a attrapé le voleur qui a volé 50 000 shekels chez M. Réhouven, et on lui dit à Shimon, Shimon, rembourse l'argent. Et de plus, tu devras le rembourser double. Shimon, il dit, mais non, j'ai dépensé l'oseille, j'étais dans les bars, machin, parti à l'hôtel, les gonzesses, j'éclatais. Il n'y a pas de problème. En attendant, tu ne peux pas le rembourser, il dit non. Il n'y a rien à te prendre, il dit non, pas très bien. Combien ça coûte de travailler 8 heures en moyenne dans le pays ? 5 000 shekels, on prend juste un exemple. 5 000 shekels, très bien. Monsieur, vous allez être esclave chez lui, donc vous allez travailler chez lui pendant 10 mois. Et au lieu de payer 5 000 shekels, eh bien, grâce à votre service, il va se rembourser. Ainsi donc, la personne se retrouve coincée quelque part, non pas jetée en prison ou quand il va ressortir encore plus délinquant que ce qu'il est rentré, regardez la chokhma de la Torah, mais en plus de ça, il va apprendre à connaître et respecter celui qui l'a volé. Il y a quelque chose qui va s'installer entre eux. Et il va le servir. Il va lui montrer c'est quoi de voler une personne, c'est quoi de lui prendre ce qu'il possédait. Maintenant, tu vas le servir dans ses propres moyens à lui. Et alors, chaque mois, il va descendre 50 000 shekels, moins 5 000 shekels, si j'avais eu un ouvrier, voilà ce que j'aurais eu. Et ainsi donc, chaque juif remboursait sa dette. Ça, c'est les dînes de la Torah. Ça rend l'argent, ça rend plus intelligent, et justice est faite. Comme à Torah Shelanu Yafa. Il y a quand même une question qui se pose. Quand on tourne la page de cette paracha à propos du Eved et de la Chifra, on tombe sur des passages qui sont un petit peu ambigus. Il y a marqué qu'à partir du moment où la personne venait les mains vides, elle repartait donc les mains vides. Ici, le Zohar Kadosh, il nous parle de la vie de l'homme. C'est-à-dire que le Zohar, dans le Sod, il dit que c'est la Neshama, quand elle descend dans ce monde, elle descend dans ce monde, elle vient nue. effectivement. Et quand elle repart de ce monde, elle part nue. Et donc on est venu dans ce monde pour servir Hachem, qui est le maître dont on parle, l'Izor Akadosh, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais au niveau du Pshat, quand on regarde le texte, Vigisho Adonav Ela Elohim, et donc il l'emmène à partir du moment où cet esclave maintenant ne veut plus partir après les Sizénim, Adonav Iten Ishav Yalada, donc même qu'il lui donnait des enfants, tout ce qui appartient donc à l'esclave, on va l'appeler comme ça de façon péjorative, mais c'est pas grave, appartient au maître, ça c'est évident, Vim Amor Yomar Aebed Afti Et Adoni, Et Ishti Et Banai, Lo Et Sechofshi. Et si maintenant lui, il se trouve très bien chez son maître, donc celui chez qui il sert, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Un tekes, une cérémonie. Et dans cette cérémonie, il y a beaucoup d'explications qui sont à relever. Vigisho Adonav El Elohim. Et donc il emmène devant Midat Adin, devant Elohim. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Vigisho El Adelet, O El Amezouza. Veratza Adonav Et Ozno, Bemartza Vavado Leolam. À partir du moment où une personne restait esclave ou une femme servante chez son maître, il y avait une espèce de cérémonie où on emmenait la personne devant la porte d'entrée. Et on lui perçait l'oreille droite, qui est Caron, et on lui mettait une boucle d'oreille. La main. Le mot qu'on a ici, veratza, ça veut dire on lui perçait l'oreille. Ok? Pourquoi? Quand on regarde le texte, c'est marqué Vigisho el adelet, o el amezouza. Pourquoi deux? Pourquoi vers la porte, deux, vers la mezouza? La mezouza, elle est posée sur la porte. Alors pourquoi avoir utilisé le mot « porte » et le mot « mezouza » ? C'est la même chose. C'est un seul corps. Seulement, il y a un avec l'autre. Deuxième question, pourquoi l'oreille ? Pourquoi pas la narine ? Pourquoi pas la lèvre ? Comme il y a plein de personnes qui se mettent des piercings sur la malo. Pourquoi ? Les Chachamim nous disent parce que cette même oreille a entendu hors Sinaï les 10 commandements de Dieu. Quand tu commences à travailler chez quelqu'un et que tu t'installes chez lui parce que chez lui devient quelque part chez toi, alors on lui rappellera plusieurs règles. Ne vole pas. Ne convoite pas la femme d'eux. Comme j'ai entendu une fois, une personne qui est devenue très riche à Los Angeles, et il a pris un chauffeur. Et vous avez compris que le chauffeur, par la suite, est parti avec sa propre femme. Ou pire encore, fait venir une femme qui va servir la maison majordome, comme ça, comme on dit. Pas majordome, majordome de femme, je sais pas comment. En tout cas, responsable de la maison. Et bien, sauf le mari, il est parti avec elle. Alors, l'otahmod, ton oseille, elle a entendu au Arsinaï. On lui prend l'oreille, on lui perce. Pour lui rappeler à chaque fois, comme quand quelqu'un faisait une bêtise, on n'a pas le droit de frapper une personne au visage. Le visage est fait à l'image de Dieu, le visage est parfait grâce à Dieu, Baruch Hashem, tel que Dieu nous a fait le visage. Alors on lui perce l'oreille, on le fait comme ça. Quand quelqu'un faisait des bêtises, on lui tirait l'oreille, en lui disant, comment tu peux te comporter comme ça? Arrête ton maître, entre guillemets, il te donne à manger, il te donne un toit, il te donne un lit, il te donne tout ce que tu as besoin. Cette même oreille qui a entendu, tu ne feras pas de mal, tu ne convoiteras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Fais très attention. Première explication. Deuxième explication, on va dire, alors dans ce cas-là, pourquoi percer l'oreille? Il y a une très belle réponse qui dit, parce que dans les 10 commandements, il est marqué « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et étant donné que le serviteur qui travaille chez son maître a un digne de femme, d'enfant ou de choté, c'est-à-dire que lui-même étant devient qui des mitzvot shazman grama comme la femme, alors on lui perce l'oreille, parce que lui, c'était un homme. Normalement, il avait 613 mitzvot à respecter, plus 7 des rabbanan, mais maintenant qu'il a un maître, il ne peut plus les faire. Donc un Eved, il a le même titre qu'une femme qui est quitte des mitzvot provoquées par le temps. Lui aussi, il est quitte de la souka. Lui aussi, il est quitte du chauffard. Lui aussi, il est quitte. Alors pourquoi on lui fait un trou? Il dit parce que avant, ton oreille, elle était pleine. Tu étais prêt à servir Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es mis dans une situation où tu t'es mis un autre maître sur toi. Et à cause du fait que maintenant, tu t'es mis un autre maître qui s'appelle ton Adon, eh bien, on te perce l'oreille parce que les 613 mitzvot sont en train de s'écouler. Les mitzvot, comme si je fais un trou dans un récipient, et l'eau qui s'y trouve s'écoule. Elle ne reste plus à l'intérieur du récipient, je ne garde que le récipient, à l'image d'une femme, qui est le réceptacle, comme on le voit dans la choupa. L'homme met la bague à la femme, l'homme tend la ketouba à la femme, l'homme, quand il se marie, il est là pour donner à son épouse. Okay? La femme donne d'elle-même, Baruch Hashem, tellement de choses déjà à la base. Mais on verra que ce qu'on appelle le kli kiboul, c'est la femme qui prend. Elle prend la semence de l'homme et elle sort d'elle la vie, la reconnaissance. La femme, c'est le kli kiboul. Donc étant donné que l'oreille représente un kli kiboul, on va faire un trou pour faire comprendre que malheureusement, ton oreille qui a entendu les 613 mitzvot au Har Sinai, maintenant elle a un trou, il y a une fuite. Et ça veut dire quoi, il y a une fuite? Eh bien, tu es devenu comme une femme, comme un enfant de 13 ans, ou comme un choté, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu un peu son esprit et qui quitte des mitzvot, d'une certaine façon, parce que si ton maître t'appelle et que c'est l'heure de la Amida, alors on va dire, eh bien, toi, tu ne feras qu'une prière par jour, comme la femme. Et si ton maître t'appelle à ce moment-là, eh bien, comme la femme, tu repousseras ta prière à l'après-midi, car tu n'es plus un homme tel que la Torah a fait sortir d'Égypte, car tu t'es mis un autre maître au-dessus de toi. Ça, c'était pour l'oreille. Il y a encore plein de choses à dire. La porte et la mezouza. Pourquoi les deux? Balatourim, il nous dit, elle a délette vers la porte, l'omar, shishmor bet adonav. Pour dire que le Eved, donc le serviteur, n'a pas simplement pour mission de servir son maître, mais qu'il a pour mission de protéger son maître. Tout comme une porte, quand on la ferme, nous permet cette intimité de vivre dans nos demeures, de la même façon, le Eved devient aussi le gardien, d'où l'allusion qui est faite sur la porte, quand on ferme la porte. Et donc on apporte le serviteur vers la porte pour lui faire comprendre que lui aussi doit être un chômeur. Mais bizarrement, pourquoi une répétition de la porte de la mezouza? Et de là on vient nous dire que le serviteur aura pour gratitude de veiller à être le gardien matériel, d'où la porte, et spirituel, d'où la mezouza. Un serviteur, il devra amener le Nitilat Yadayim à son maître. C'est spirituel, al Nitilat Yadayim. Il devra veiller à lui apporter un beau loulav. Il devra veiller à lui construire sa souka si le maître n'a pas eu le temps. Lui aussi doit être comme la mezouza. C'est-à-dire, d'un côté, il est spirituel, et de l'autre côté, il veillera à ce que le matériel prospère chez lui. La reine Mivim est la mezouza, elle a delet ve'or et la mezouza, ou l'un ou l'autre, et s'il peut prendre les deux, il ne matovu manaim. Omer Rashi Akadosh, lui aussi, il voit cette question, il dit, elle a delet ou elle a mezouza, la porte ou la mezouza, yachol sheteha mezouza kshera lichtsoa aleha. Il est possible que la mezouza, elle est kasha pour le faire. En d'autres termes, la Torah nous propose. Et si la mezouza n'est pas kasher, est-ce qu'on peut l'emmener là-bas? La porte, c'est sûr qu'on la voit. Elle tient bien, mais la mezouza, peut-être qu'on la vérifiera. On a une allusion ici qui nous fait comprendre que, comme ça s'est passé une fois avec le Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, où on l'invitait à rentrer dans une belle bête à Knesset, il y avait une grosse mezouza comme ça sur le côté droit, et le Baal Shem Tov passe devant la mezouza, sans l'embrasser, sans la regarder, il avance. À un moment, il ressort de la bête à Knesset, et il n'embrasse toujours pas la mezouza. Il ne pose pas sa main dessus, et il ne regarde pas la mezouza. Le Rav de la bête à Knesset lui a dit, « Gvodarav, vous passez deux fois devant la mezouza, vous n'embrassez pas ?» Il lui a répondu le Baal Shem Tov avec un grand sourire et beaucoup d'humilité, « Quand elle sera cachère, je l'embrasserai. » Tout de suite, le Rav a ouvert la mezouza, il a regardé, effectivement, il manquait deux lettres à l'intérieur de cette mezouza. « La Ruach Kodesh et la Baal Shem Tov, Zecher Tzadik, le Kadosh Ibracha. » Ve'alken, nous dit Rashi HaKadosh, « Comme on ne sait pas quel est le din de la mezouza, si elle est kachère ou elle n'est pas kachère, la délette, c'est sûr qu'elle est. Donc si on sait qu'elle est kachère, elle a mezouza. » Dans le gardiennage, quand on dit jusqu'où doit aller un Eved, jusqu'à donner sa vie pour son maître, lorsque tu vois ça, il dit Nachon. Arrête la porte, quand tu la fermes, c'est pour te protéger de tout ce qui peut nuire aussi à toi. Le vent, les intempéries, les voleurs, les meurtriers. Et la mezouza, on parle de quoi? Quand vous écrivez le mot mezouzot, c'est les lettres du mot zazmavet, qui bouge la mort. Il dit ainsi donc le Eved. Même s'il est gâté par son maître, il a quand même un rôle très important. C'est aussi le gardien spirituel et matériel de son maître, Ad Kan Leshono. On va parler maintenant de la femme. Et la femme aussi, on lui perce l'oreille. Demain, la femme, il y a une différence. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, à la page 45, Rabbi Eliezer ben Orkanos nous dit que c'est une mitzvah pour la femme, dans les 10 tikkunim de la femme, il y a 10 tikkunim chez la femme, que j'ai déjà fait en shiur, vous pouvez regarder toratranim.net, les 10 réparations de la femme, eh bien, les femmes doivent se percer les deux oreilles et mettre des boucles d'oreilles. Alors, ça paraît bizarre, parce que ça voudrait dire que le fait qu'elles se percent les oreilles, Oui, dit Rabbi Eliezer, depuis la faute originelle, l'un des 10 tikkunim de la femme, c'est, donc ne vous méprenez pas, je vous parle de Torah, servir son mari. Celle qui fait à manger, celle qui le sert, celle qui débarrasse. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une misa pour un homme d'aider sa femme. On fait du chesed avec plein de gens et à la maison on ne fait pas. C'est stupide. C'est une mitzvah d'aider sa femme. C'est une mitzvah, attention, ne confondez pas, c'est un grand chesed pour un homme, c'est un srout pour lui. Je souvent comme ça, tu viens à la maison, ta femme fait à manger, tu fais à manger à côté d'elle. Vous faites comme moi. Moi, je fais tout moitié avec ma femme. Elle cuisine, je mange. Je mets, elle lave. Moitié, moitié. Il faut être droit. C'est une blague. Avant quoi qu'il advienne, Tov Meot Shadam Yazor Lishto. Mais la femme, c'est elle en général qui repasse, celle qui fait le linge, celle qui tend le linge. C'est comme une, on pourrait dire, entre guillemets, servante quelque part. C'est elle qui est la maîtresse de maison. C'est elle qui gère la maison. Sponja, qui lave, ainsi de suite. Vous ne voyez pas des messages en disant ah, ça c'était à l'époque, aujourd'hui c'est moi qui fais tout. Je parle de généralité depuis tous ces millénaires, d'accord? Pourquoi la femme, elle doit porter des aguilim? Parce que la femme, il ne faut pas simplement qu'elle perce ses oreilles, mais il faut aussi qu'elle porte des aguilim. Aguilim, ça veut dire des boucles d'oreilles. Et en réalité, il faut savoir que le mot aguilim, pourquoi on appelle ça comme ça aguilim? Parce que c'est à gol. Alors si c'est un truc droit, alors c'est pas bécédère, c'est une petite boule. Alors, c'est pas bécédère. Le mot aguilim vient de la racine egel. Et comme les femmes d'Israël n'ont pas participé à la faute du veau d'or, quand elles portent des boucles d'oreilles, d'où une grande mitzvah pour un mari, Bezrat Hashem, pour avoir par exemple chez Oshrigan Pessar qui arrive, Soukot, Shavuot, peu importe la fête qui vient, d'acheter des belles boucles d'oreilles, les plus belles qu'on puisse trouver pour sa femme. Pourquoi? Parce que quand on a fait le veau d'or, nous les hommes, on a arraché les boucles d'oreilles des femmes. Ce qui fait que quand la femme, on lui dit hey, n'oublie pas dans la halakha, tu dois servir ton mari, hein, n'oublie pas. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit, moi en tout cas, je porte des boucles d'oreilles. Ce n'était pas un vêtement d'homme, chazéchem, les boucles d'oreilles, c'est un vêtement de femme. Il dit pourquoi? Il dit parce que les boucles d'oreilles viennent orner la femme qu'elle n'a pas fait d'avodazara. Et que si les hommes n'avaient pas fait cette bêtise du veau d'or, on aurait eu la Géoula depuis le don de la Torah. Ce qui fait que les boucles d'oreilles, agalim, agilim, c'est du mot egel. Ça veut dire nous, on n'a pas fauté. Vous ne pouvez pas nous reprocher la faute originelle. Depuis qu'on porte des boucles d'oreilles, ça vous, hein, vous taisez les hommes. Parce que vous aussi, vous avez fait la faute du veau d'or. La reine, une femme, se orne d'un côté, c'est vrai, des trous dans les oreilles qui lui rappellent qu'elle doit aussi être proche de son mari, servir son mari, par amour, et des fois par humour. Mais quand elle porte ses boucles d'oreilles, c'est pour relever son étendard et sa force. Et grâce à la femme, eh bien, Dieu nous a pardonné aussi la faute du veau d'or. Et c'est à Guilim qu'elle porte, lui font rappeler à elle cette belle paire de boucles d'oreilles qu'elle n'a pas participé à la faute du veau d'or. Agalim, Agilim, c'est les mêmes lettres. Et pour finir, il y en a qui disent pourquoi Bémet on lui perçait l'oreille. Bien tout simplement parce que si celui qui avait juré devant la mezouza décide de se barrer avec la femme que lui a porté son maître, et qui décide de se sauver et qu'on le rattrape un jour, on dit mais toi, c'est toi qui étais serviteur chez moi, tu t'es enfui avec mes affaires, tu t'es enfui avec mon argent, et comment tu peux le prouver? Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Interpol, il n'y avait pas des photos. Alors, les oreilles percées montraient que cette personne-là vraiment avait été un jour évède et devra justifier comment il a été libéré, qui était le maître qui l'a libéré. Et ainsi donc, la justice d'Hachem se pratiquait avec beaucoup de sagesse, mais surtout avec beaucoup de droiture, afin que, Bezrat Hachem, tout le monde puisse reconnaître En Od Milevado. Hachem Hu Ha'elokim Ve En Od Milevado. Baruch Adonai Lo'olam Amen Ve Amen. Hashiur Hazeh Haya Bezrat Hashem Itbarach. Pour le premier donc du mois de Hadar, ce soir, Yves Ilouz, pour l'askara de son papa, Moshe Ben Simcha, Zichrono Livracha. On se revoit tout de suite pour un autre shiur, pour ceux qui sont intéressés, Bezrat Hashem, sur la joie de Rosh Chodesh Hadar. Kol Tov.